dal disegnamento. L'angelo della conoscenza, il mio manager, Ahava e Eva, le disse a enseigner, il vaut mieux par Ahava, pour les raisons d'ordre, finalement, pédagogique, de stratégie, je dirais un mot supplétif, pour les raisons d'ordre pastoral. Ici, le succès parle comme un rabbin. Il est l'expérience qui montre qu'il vaut mieux être lié à Dieu par l'amour que par la crainte, parce que par la crainte, qui est aussi réclamé, eh bien, on risque d'abandonner, alors que par l'amour même. Et quand je vais terminer, comment arriver à cette connaissance de Dieu par l'amour à travers l'église de la Torah. Voilà laquelle elle est très claire. Hein? Tout à l'heure, déjà, nous allons aborder les autres sujets. Quelques mots sur ces deux modes de connaissance en tant que Ira et Ava. Je voudrais d'abord citer, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est un chidouche très joli, mais je ne sais pas de qui ça vient. Peut-être des chassidim, mais je n'ose pas m'avancer. Que finalement, si la Ira est authentique, alors elle mène à la Ava. Parce que regardez, les deux dernières lettres de Ira, c'est les deux premières lettres de Ava. C'est joli. Hein? Ira, c'est le commencement de Ava. La fin de la Ira, c'est le commencement de la Ava. C'est la Ira qui mène à la Ava. Il y a une... c'est bien ça, oui. Il y a, si vous voulez, une dialectique entre l'amour et la crainte, qui est très importante. Alors je voudrais simplement vous citer la règle que nous a enseignée le Rav Kook, peut-être que vous l'avez déjà apprise d'autre part, et c'est ceci. Il y a entre Dieu et l'homme deux expériences, toutes deux authentiques, bien que toutes deux absolument contradictoires. C'est d'une part l'expérience de la proximité absolue, et d'autre part, du dedans de l'expérience de la proximité, l'expérience de l'éloignement absolu. En hébreu, ça se dit « karov » et « rahok ».« Karov » proche, « rahok » loin. Et on pourrait dire aussi l'inverse. Je pense que c'est peut-être, si vous voulez, l'accès à cette expérience, soit par cette voie, soit par cette autre voie, de « rahok » ou de « karov », vient de ce que est l'homme dans son tempérament. Donc l'autre voie serait premièrement l'expérience de l'éloignement absolu et du dedans de l'expérience de l'éloignement absolu de celle de la proximité absolue. Après nous verrons les termes philosophiques qui recouvrent plus ou moins cela, mais et alors vous avez compris vous-même, lorsque j'expérimente la proximité, c'est ça l'amour, et lorsque j'expérimente l'éloignement, c'est ça la... Et alors, à partir de là, on pourrait faire toutes les analyses existentielles, si vous voulez, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs, chacun suivant son style, mais ça revient finalement aux mêmes catégories. C'est-à-dire, dans cette découverte de Yesh, il y a. Alors, dans ce il y a, dans cette expérience de cette rencontre mystérieuse, si vous voulez, il y a, alors il y a ces deux dimensions qui apparaissent à la fois. Et l'une du dedans de l'autre est réciproquement. Un éloignement total, que les philosophes appellent la transcendance, et une proximité totale que les philosophes appellent l'immanence. Et puis, l'une, c'est l'expérience de l'amour, et l'autre, c'est l'expérience de la crainte. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, vous comprenez pourquoi les deux sont nécessaires? Parce que s'il n'y a que l'immanence, eh bien, c'est l'hérésie. C'est déjà l'hérésie. S'il n'y a que l'immanence, et il n'y a pas la protection de la transcendance, alors il y a la confusion absolue qui vient de l'amour lui-même. Et inversement, s'il n'y a que la transcendance, c'est aussi l'hérésie. Parce que s'il n'y a que la transcendance, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relation, il n'y a plus place pour la providence. Laquelle des deux hérésies est la plus grave? C'est un autre problème. Je ne répondrai pas. Mais je crois que, et là je vais beaucoup schématiser, je vais être même arbitraire, mais je vais essayer d'exprimer une sensibilité juive traditionnelle à travers les siècles. Ces deux limites de ce qu'était le monothéisme hébreu sont apparus finalement, et il faut énormément nuancer dans ce que je veux dire là. Mais ce sont des perspectives qui me semblent assez éclairantes. D'une part avec l'islam, où on ne trouve surtout que la transcendance, et où l'immanence est complètement évanouie, et d'autre part avec la chrétienté, où on trouve surtout l'immanence, et où la transcendance est rejetée à l'infini. Vous voyez comment ça s'organise, okay? C'est-à-dire, c'est surtout des questions... C'est-à-dire, je viens de lire hier un article, mais je ne sais plus où. Eh bien oui, attendez, non, c'était je ne sais pas où, probablement dans le Figaro, puisqu'il s'agit du Père Riquet. Un article du Père Riquet sur un livre, vous avez vu ça? Oui. Vous avez l'article là par hasard? Apportez-le demain, parce que ça vaut la peine de le lire, hein, sur ce problème. Et où il explique ça, théocentrisme et christoséo, okay. Alors vous voyez de quoi il s'agit, okay. Mais le schéma que je voudrais analyser est beaucoup plus général. C'est, il semble bien que la sensibilité islamique a été surtout, a perçu surtout la catégorie de transcendance. Et que la sensibilité chrétienne, elle, a surtout perçu la catégorie d'immanence. Mais que pour rester dans l'orthodoxie juive, si j'ose dire, eh bien, il faut les deux. Et on peut admettre que, dans la communauté juive, un accent soit mis plutôt sur l'un que sur l'autre, mais c'est un accent. Tandis que ces limites extérieures nous sont déjà étrangères. Parler d'un Dieu uniquement transcendant, c'est pas les Juifs. Parler d'un Dieu uniquement immanent, c'est pas non plus les Juifs. Il y a les deux. Alors voilà pourquoi il y a les deux conduites, les deux comportements, disons les deux espérances de connaissance, et l'amour et la crainte. Un amour qui n'est pas protégé par la crainte, c'est la porte ouverte à toutes les indécences, à toutes les impudeurs, à toutes les mystiques psychologiques, pour ne pas dire plus grave. Vous savez, chaque fois que nous, les Juifs, nous lisons les livres des mystiques, ça nous gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous gêne, parce que parler de Dieu comme ça, enfin, c'est un peu exagéré. On comprend le débordement d'amour, on peut comprendre, mais c'est gênant, c'est impudeur, impudique. Je parle des mystiques. Bon. Et de la même manière, lorsque nous lisons des livres de métaphysique théologique uniquement de la transcendance, ça nous est aussi extrêmement étranger. Ça veut dire que c'est une condition humaine qui n'est pas la nôtre. Nous avons une autre mémoire, nous avons une autre expérience de la prophétie et de la relation de Dieu à l'homme, bien que nous soyons dans des temps d'éclipse. Mais la mémoire joue. Zichru Torat Moshe Avdi. Et vous voyez pourquoi il faut ces deux dimensions à la fois. Alors, changeons de registre. Changeons de registre, c'est peut-être plus facile à expliquer. En termes d'amour humain, s'il n'y a que l'amour et pas le respect, ou s'il n'y a que le respect et pas l'amour, eh bien, ni l'un ni l'autre, c'est la véritable relation, vous comprenez. Un amour sans crainte, ben, c'est l'amour des cannibales. Je t'aime tellement que je te mangerai. Vous voyez, vous voyez jusqu'où ça va. Et alors, ça vient avec l'hostie et tout le reste. Hein, c'est cannibale, tout ça. Hein. Bon. Et puis... Bon, voilà pourquoi je crois qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait ces deux dimensions. Je vous citerai un autre registre, avant d'aborder déjà le premier texte de Maïmonide. C'est que les commandements de la Torah, précisément, sont de deux sortes. Les commandements positifs, ce qu'il faut accomplir, et les commandements négatifs, ce qui est interdit de faire. Mitzvat Aseh et Mitzvat Lo Ta'aseh. C'est clair pour tout le monde, cela, okay? Vous savez cela. Bon. Et alors, ça va nous permettre une petite nuance dans Rashi que cite le Sifré. Dans Sifré que cite Rashi. D'ailleurs, ça pourrait être l'inverse. Et Rashi nous dit Rasé me'ahava. Là, il y a une indication importante. C'est-à-dire, la motivation de l'accomplissement positif de ce qu'il faut faire, c'est l'amour. Pourquoi je fais ce qu'il faut faire? Par amour. Parce que j'aime celui qui m'a demandé. J'ai pas dit j'aime ce qu'il m'a demandé. Ça, c'est un autre problème que Maïmonide étudie d'ailleurs, même si j'aime pas ce qu'il m'a demandé. Et peut-être que quand j'aime pas ce qu'il m'a demandé, je le fais quand même, j'ai plus de mérite. Et ça se réfère à la discussion d'avant-hier, là, aussi. Vous vous rappelez de quoi il s'agit?
Oui, oui. Bon. Non, pas de lundi.
En tout cas, c'est Maïmonide. Okay. Et ne pas faire ce qui est interdit de faire, la motivation, c'est la crainte. Alors ici, il y en a quand même, nous avons quand même une petite nuance importante. Je relis Rashi. Assez, Me'ava. Il s'agit du commandement des mitzvot, assez. Et alors, il pourrait y avoir une erreur. Faire ce qu'il faut faire par crainte. Dis non, c'est là qu'il y aurait l'erreur. Vous voyez où je restreins un peu le chidouche de Rashi. Est-ce que c'est clair? Je reprends l'analyse, parce que je n'ai pas l'impression que vous suivez. Il y a deux catégories de commandements. Mitzvot asé, la motivation, c'est l'amour. Mitzvot lot asé, la motivation, c'est la crainte. Maintenant, dans les mitzvot asé, quand je suis mené à faire ce qu'il faut faire, alors c'est là que le sifré intervient. C'est là le chidouche du sifré, cité par Rashi. Quand tu es occupé à accomplir ce qu'il faut accomplir, à accomplir la valeur, comme le devoir, comme dirait Kant, eh bien, accomplis-le par amour, comme ne dirait pas Kant, parce que lui, il reste au devoir. Et pourquoi, dit le sifré, par amour? Parce que si tu fais ce qu'il faut faire, par crainte, soit du châtiment, soit de tout ce qu'on voudra, alors finalement, tu vas te... Leitiaesh. Leitiaesh.
Se désespérer?
Pas exactement ça. Renoncer. Tu renonceras. Il y aura un effondrement de la conscience. Parce que si tu n'es pas nourri par cet ahava pour faire ce qu'il y a à faire, il y a une béquille, comment dire, inefficace. Okay? Ce par quoi tu dois être aidé, dans ces mitzvot-là, la mitzvot assez, c'est par l'amour, pas par la crainte. La crainte, c'est pour les mitzvot l'autre assez. C'est tout. Bien. Alors, dans tous les cas, je voudrais résumer tout cela. Ce sont des sujets qui nous sont enseignés pour eux-mêmes. Mais d'autre part, pour notre problème, il s'agit là des deux modes de la connaissance, de la connaissance vie. Bon, vous voyez que je me range dans cette analyse chez ceux qui diront que la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance intellectuelle. Premièrement, parce que la connaissance directe de Dieu est impossible. Let mahashavat fisa ba klal, dit la Pticha d'Eliyahu. Okay? Il n'y a pas de conceptualisation possible, directe. Il n'y a donc une connaissance que de la relation de Dieu au monde. La connaissance du nom, qui est la relation de Dieu au monde. Et cette relation de Dieu au monde a deux dimensions dont la connaissance nous est permise, mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce concept, peut-être certains philosophes le comprennent, mais en tout cas, moi, je ne suis jamais arrivé à le réaliser. Ce concept d'amour intellectuel, je ne sais pas moi ce que ça veut dire. Ça existe, je sais que ça existe. Mais en tout cas, une minute. En tout cas, je veux dire qu'il y a là une expérience de la sensibilité. Mais, c'est ça le chidouche du sifré, cette expérience de la sensibilité doit être contrôlée, filtrée et passée par la connaissance de la Torah qui, elle, est intellectuelle. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je crois que là, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'émotion de l'amour ou l'émotion de la crainte, il n'y a pas cette connaissance de Da'at dont nous parlerons pour parler de la connaissance de Dieu. Mais elle ne peut pas être laissée Efker. Elle ne peut pas être laissée, comment dire, Efker, à être purement une expérience psychologique. Et par conséquent, elle doit passer par Hadvarim Ha'ele. Elle doit passer par ce commandement que nous avons dans les prophètes. Da et Eloke Avicha. Connais qui est le Dieu de ton père. Et ici, ça passe par le filtre de la connaissance. Mais quelle connaissance? La Torah. D'après cette source, Maïmonide va intervenir tout à l'heure, l'étude du monde. Et c'est là que nous aurons notre controverse. Voilà, c'est pour l'introduction jusque-là. Oui, vous vouliez demander.
Vous avez dit un mot à propos du texte de la prière d'Elia, Bachar, Elia, Bachar. Et le fait que Dieu dit à Dieu ne peut pas y avoir d'atteinte de l'enfant de Dieu, mais l'atteinte de Dieu n'est pas psychologique.
Non, non, mais ce que je ne comprends pas, c'est l'expression amour intellectuel.
Non, mais la deuxième chose, c'est ceci, qu'il faut distinguer entre le fait de penser ce que l'on pense. Quand la Torah dit, mais mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est en cela que la tête de Dieu n'est pas possible. Bon, on connaît une table, on connaît un plafond. Mais il y a deux choses. Le fait que je pense et ce que je pense. Le fait de penser est commun à Dieu et à l'homme.
Non, et ça veut dire que... Non, ça veut dire que je ne peux penser que ma pensée de Dieu, mais ce n'est pas la connaissance de Dieu.
Pas du tout, parce que si je ne peux penser que ma pensée de Dieu, on se demande bien qu'est-ce que Dieu a révélé.
Sa volonté.
S'il n'a pas révélé quelque chose qui est de l'ordre non pas psychologique, mais intellectuel,
oui.
C'est-à-dire ontologique.
Attends, alors. Et alors, c'est ce que j'ai appelé la connaissance de la Torah.
Mais la Torah n'est pas d'ordre ontologique, elle est d'ordre, pédagogique. Ce que dit Maïmonide.
Attends, il faudra qu'on voie la source. Voilà ce que je veux dire pour pas qu'on change de régime. C'est que la Torah me révèle la volonté de Dieu pour ma conduite. Et avec une préface qui explique l'histoire du monde dans laquelle est inscrite la conduite. Alors, plus loin que ça, je peux dire que connaissant sa volonté, je devine qui il est. Mais je n'ai pas de connaissance directe, par conceptuelle, intellectuelle.
Conceptuelle ne veut pas dire psychologique.
Mais justement, ça veut dire intellectuel et c'est ça que je nie.
Mais intellectuel, c'est de toute façon Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Et si c'est une intelligence qui n'avait rien du tout, ça ne serait pas Dieu, on se demande bien pourquoi il a donné l'intelligence.
Alors, je reprends l'analyse. Elle n'atteint pas Dieu directement à la manière dont l'intellect connaît tout ce qu'il connaît. Elle connaît à travers une expérience, suis bien l'adjectif, il est différent, psychologique, qui est une émotion d'amour ou de crainte. Mais, et j'ai pas fini.
Dans le judaïsme, il n'y a pas de médiation.
Ah, mais tu changes de sujet.
Par intermédiaire, c'est donc que je ne suis pas dans le judaïsme.
Non, écoute.
On a refusé l'intermédiaire christique.
Non.
Alors on va refuser aussi l'intermédiaire de la
science. Je suis désolé, c'est un tout autre sujet. Quand je dis par la médiation d'une connaissance qui est une émotion, je ne parle pas du Christ. Je parle de mon émotion d'amour ou de crainte. Et ça n'a rien à voir avec un médiateur théologique. Mais ce que j'ajoute, c'est que cette émotion d'amour ou de crainte doit être filtrée, authentifiée par une connaissance qui, elle, est intellectuelle, je cite le texte, mais qui sont Hadvarim Ha'eleh, non pas Dieu lui-même, mais ses paroles.
Mais en Dieu, on ne peut pas distinguer entre Dieu et ses paroles. C'est ce que dit le Zohar. Son nom et lui, c'est la même chose. Donc si j'atteins son nom, j'atteins lui.
C'est pourquoi j'ai dit aussi tout à l'heure que plus loin, je peux, à travers sa volonté, connaître qui il est. Mais il ne s'agit pas d'une connaissance directe à la manière d'un philosophe. Il faut que je passe par l'étude de sa volonté, c'est-à-dire son nom.
Je peux poser une question, s'il vous plaît.
Attendez, pas tous à la fois. Une minute. Parce que, une minute, j'ai pas fini. Parce que moi, j'ai pas fini de comprendre. Voilà ce que je veux dire. Il faut pas, je pense, il faut pas, du point de vue de la méthode, citer des sources, à la fois des sources qui sont dans des régimes différents. Alors il faut aller plus lentement, tout simplement. Et il y a par exemple dans la Gemara un texte très clair qui dit que la Torah s'appelle le nom de Dieu. D'après un verset qui dit « Kishem Hashem Ekra Abu Godel Elokenu ». Dans le rite ashkenaz, on dit ce verset avant la lecture de la Torah. « Kishem Hashem Ekra Abu Godel Elokenu ». Donc, je ne peux connaître Dieu qu'à travers son nom. Mais pour la tradition juive, qu'est-ce que c'est que son nom ? La Torah, le dévoilement de sa volonté pour moi. De quelle nature est cette connaissance de Dieu que j'aurai ? Elle est premièrement d'ordre de l'émotion, c'est ça que je dis, d'après ce texte. Mais cette émotion ne peut pas être brute, laissée brute, elle mènerait à n'importe quelle mystique païenne, elle doit être contrôlée par l'étude intellectuelle de la Torah. C'est quelque chose de très précis que je voudrais exprimer. Maïmonide va ajouter dans l'autre texte que nous verrons tout à l'heure, ou nous verrons l'étude du monde, qui est aussi l'expression de la volonté de Dieu dans d'une autre manière. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour que ce soit bien clair. Le concept d'amour intellectuel, c'est ça que je dis que je ne comprends pas. Parce que l'amour, c'est une émotion, et l'intellectuel, c'est une connaissance conceptuelle. Il est possible qu'il y ait des hommes qui aient cette expérience. Je disais tout simplement que moi, je ne l'ai pas. Mais, encore une fois, l'amour n'est authentique que s'il est une émotion. Seulement, donc, Ahava ou Ira. Seulement, cette émotion doit être filtrée, canalisée, épurée par l'étude de la connaissance de la Torah. Voilà la thèse.
Alors, une émotion épurée n'est plus une émotion.
Voilà. C'est à discuter.
Une passion intellectuelle...
Non, c'est une passion, mais dont l'objet sera défini par la connaissance. Mais La passion reste passion. Et il est possible qu'il y ait une expérience de cet ordre. Laissez-moi voir. Il est possible qu'il y ait une expérience de cet ordre. Mais en tout cas, moi je ne l'ai jamais expérimenté. C'est tout. C'est, je ne peux pas dire autre chose. Alors attendez, non, qui dans l'ordre ne m'assassinez pas de questions.
Non,
un peu d'ordre.
Non, ce n'est pas une question intéressante, mais ce que vous avez dit sur la proximité. Pardon. Sur l'immanence et la transcendance. Proximité, éloignement. Immanence, transcendance. C'est, toutes les deux, c'est une hérésie, n'est-ce pas?
Quand elles sont seules.
Oui, quand elles sont seules, c'est ça. Alors la transcendance l'est par le manque de communication. Et l'immanence, je n'ai pas saisi.
C'est le pire des paganismes.
C'est idolâtrie.
C'est ce que les chrétiens appellent l'incarnation.
On pourrait dire idolâtrie.
Oui, c'est pire encore que ça. Attendez, mademoiselle.
Oui.
Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit.
C'est vous qui l'avez dit. C'est pas une chose que j'ai retenue, mon père, j'ai retenu.
Attendez, quel était le sujet du...
C'était la Kedatitsa, non? C'était la Kedatitsa.
Alors, il y a deux ans.
Non, c'est l'année dernière.
L'année dernière?
En début d'année, l'année dernière. Un an et demi.
La Torah, qui constitue la vie sous terre.
Ah oui, donc c'est
la Torah qui constitue la vie sous terre. C'est le couteau et le baiser. Les anges, c'est pas obligatoirement ça, et ils n'ont pas la Torah. La Torah, c'est pour les hommes. Donc le nom de Dieu et la Torah, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Il faut passer par le nom, par les intermédiaires, par les anges, par exemple.
Non, je ne me reconnais pas là-dedans. Je ne crois pas que j'ai jamais dit le couteau et le baiser. Non, il y a... Il y a Sayar dans les Sefer. Il y a le sabre et le livre. L'épée et le livre, mais je ne sais même pas si je parlais de ça, que le couteau et le livre sont descendus en jeté l'un dans l'autre. Mais c'est pas moi qui citais ça, c'est Sirat. Dans 6 mois, dans 6 mois. Bien. Et,
j'ai l'impression que ce passé nous enseigne qu'en fait, il n'y a rien de moins naturel que l'amour, contrairement à ce qu'on est habitué à croire. Mais que. Et que justement, ça n'est pas ni un sentiment, ni une connaissance, mais une compétence. Et que cette compétence enseigne par une initiation, un savoir qui passe justement par émaillé.
Je veux bien, mais l'opération de cette compétence est une émotion.
Oui, d'accord. Et ça va de soi, des moments où.
D'accord.
Et je dis ça par rapport justement à la parole qui répond, c'est le pape, quand il est venu.
Je pourrais peut-être formuler ça de la manière suivante, d'après le verset lui-même. On pourrait dire, mais c'est une paraphrase, quand tu aimeras, aime comme ça. C'est-à-dire, ça vient... Peut-être. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions avant la Hafsaka, on aborde quand même le premier texte de Maïmonée. Okay.
L'amour de Mashiach.
Pardon ?
L'amour de Mashiach. C'est ça peut englober tout Israël, ça peut englober beaucoup de choses. Et pour concevoir cet amour de Mashiach, qu'est-ce que vous pensez à Israël ?
Qu'est-ce que vous appelez l'amour de Mashiach ? Écoutez, si vous me permettez, ça fait bien si on retarde avec Maïmonide, parce que je crois que c'est quand même important. Je vais vous dire, il me semble qu'il y a ici un point de méthode à élucider. Vous savez que nous travaillons de manière inhabituelle et non traditionnelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit souvent, ou on le dira, chaque fois que vous étudierez en études traditionnelles, on n'a jamais fait comme ça. C'est-à-dire d'abord des textes qu'il faudrait d'abord connaître vraiment et maîtriser. et avec des niveaux d'expérience de l'étude de la Torah très différents dans la salle. Vous comprenez ? Ce qui fait que la même parole déclenche en vous des mondes de réactions radicalement différents. Et alors, il y a une espèce de bouillonnement de maelstrom, pour moi qui vous écoute, penser tous à la fois, pour savoir exactement comment répondre à chacun sans égratigner les autres. Enfin, je ne sais pas comment dire. Alors, c'est... je veux dire, nous sommes dans une génération où c'est nécessaire de faire comme ça. Parce que si on ne faisait pas comme ça, il n'y aurait pas de commencement à la suite. Mais par la suite, il faut vous normaliser, c'est-à-dire recommencer à étudier comme il faut. C'est-à-dire, parle à l'œuf bête, que bête c'est pas à l'œuf et qu'à l'œuf c'est pas bête. Et vous voyez, filtré par la connaissance. Et puis ensuite, le Mikra, et après la Mishnah, et après, et après, et après, pour arriver à un séminaire pareil. Mais ce que je vous dis là, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Ça va sans dire, mais ça va mieux. C'est-à-dire, non, je ne voudrais pas qu'au jour du jugement dernier, on me convoque et on me dise viens voir ici, qu'est-ce qu'il y a avec celui-là. Alors, donc, il y a quand même ce principe de méthode à mettre en évidence. Et vous parlant de cela, j'ai oublié ce que je voulais vous dire tout à l'heure à propos de votre question. Mais je crois que c'était quand même important.
La confusion entre l'amour du Messie et l'amour de Dieu.
Non, c'est pas ça que je voulais parler, quoi c'est un problème aussi important. Bon, ça me revient là, peut-être. Oui, rapidement.
Le sujet est facile, trois fois par jour. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'homme dit trois fois par jour fait l'expérience de l'Arafa et de l'Arafa?
Chacun à son niveau. C'est tout ce qu'on peut demander.
C'est l'expérience.
Oui. Oui, mais chacun à son niveau. Et vous voyez, c'est le même sujet. On ne peut pas légiférer de façon horizontale pour tout le monde. C'est pas possible. J'ai bien conscience que les mots que nous employons ont des connotations très différentes pour chacun d'entre vous. Ce que je voulais dire, c'est cela, on n'a jamais étudié en public comme ça. D'abord, ça doit se faire dans l'ordre de l'initiation très longue, qui doit mener à un certain niveau de spéculation, si vous voulez, d'analyse. Et d'autre part, on n'a jamais étudié ces sujets plus qu'un maître et deux élèves à la fois, et encore. Bon, vous voyez la difficulté du problème.
Hein? C'est très bien, ça, je trouve, cette expérience.
Oui, mais si vous voulez, c'est une espèce d'expérience de découverte que ça existe. Et maintenant, Tseoulmat va y apprendre. Et Tseoulmat, c'est très joli. Parce que ça veut dire sort de l'école et apprend. Et ça ne veut pas dire rentre dans l'école. Bien. Bon, tant pis, ça m'a échappé, mais il y avait ici un point de méthode. Ça me reviendra peut-être. Alors, si vous voulez, nous abordons rapidement, parce que, à moins que vous vouliez Nafsaka tout de suite, ou bien ça va la faire. Hein? Nafsaka? Non, à la rigueur ou à la miséricorde. Mais bon, alors on va prendre 5 minutes d'Afsaka, parce que, quand même, il y avait la Rodin, c'est bon. Et deuxièmement, la source ira à Hava. Vient de m'être signalé par Joël, c'est le Sefer Abahir, à la Chassidim. Mais vous le trouverez aussi chez les Chassidim, probablement, puisque le Sefer Abahir. Bien, alors écoutez, nous allons maintenant, j'espère qu'il n'y a plus de questions de vocabulaire en suspens. Alors nous allons maintenant lire les deux textes de Maïmonide, dont je vous donne d'abord l'intitulé des références. Une minute. De cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous en aurez pour demain, certainement. Ceux qui n'en ont pas. Suivez deux sur un texte, il n'y en a pas.
Il y en a là.
Ah ben, il y en a là, oui. Oh, excusez-moi, vous en avez ici. Ah, je ne les avais pas vus, alors vous en avez.
Mais je ne l'ai pas.
Tenez, vous l'avez là.
C'est ça?
Oui. Bien. Vous en avez suffisamment là? Oui. Mmh. Bien, alors nous allons voir un premier texte qui est du Mishneh Torah, dans le premier livre qui s'appelle Sefer Hamadah, le livre de la connaissance, qui a été traduit. On vous a mis en haut le livre de la connaissance, mais sans vous mettre le nom du traducteur. C'est le rabbin Zawi et M. Niki Provetsky. Alors, puisqu'on avait la traduction française à la bibliothèque, on vous l'a mise. Je la lirai avec vous tout à l'heure, pour vous verrez bien qu'on ne peut pas traduire. Et ensuite, une deuxième référence que vous avez dans l'autre côté de la page, qui est du Sefer HaMitzvot de Maïmonide. C'est un livre où il formule quels sont, d'après lui, les 613 commandements qu'il y a dans la Torah. Alors, la première référence. Ha'el anichbad vanora azeh. Ce Dieu à qui nous devons honneur, kavod, venora, et qui est redoutable, mitzvah, c'est un commandement, mitzvah, le'ahavo, de l'aimer, ou lira oto, et de le craindre. Vous voyez, donc Maïmonide cite les deux voies de la connaissance comme nous avons vu tout à l'heure. Shenehemar, ainsi qu'il est dit pour le premier commandement, le'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu. Et ça y est, je retrouve ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Rappelez-moi ce verset. Et, dites-moi, et. Deuxième verset pour le commandement de crainte. Venehemar, et il est dit, et Hachem Elokecha tira. Tu craindras Hachem, ton Dieu. Vous voyez, nous retrouvons dans les versets les deux termes. Ahava et Ira. Alors j'espère avoir suffisamment expliqué tout à l'heure pourquoi les deux était nécessaire. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et alors, Mishnah 2. Enfin, c'est pas une Mishnah, c'est un Saïf, peu importe. Deuxième paragraphe. Ve'each hi aderech le'ahavato. Et comment est le chemin pour son amour? Ve'irato, et pour sa crainte. Ça veut dire pour l'amour de lui et pour la crainte de lui. Ve'sha'a she'idbonen ha'adam be'ma'asav u'buruav. C'est au moment où l'homme, alors traduire Ritbonen, réfléchit, approfondit, cherche à comprendre, comprend, Bemahasab, ses œuvres, les œuvres de Dieu, et donc le monde, c'est clair. Ubruav et ses créatures. S'il n'y avait pas Ubruav, on aurait pu dire que ça veut dire au moment où l'homme réfléchit sur ses propres actions. Mais puisqu'il y a Mahasab ou Bruav, il est clair qu'il s'agit des actions et des créatures de Dieu. Donc l'étude du monde. Et peut-être que là, il n'est pas nécessaire que cela aille jusqu'à ce que l'on appelle la science, mais une réflexion sur le fait que le monde est là et qui devrait normalement mener par inférence, par induction, au fait de connaître qui a créé ce monde et donc l'aimer et le craindre. Mais je pense que Maïmonide, lui, parce qu'il y a d'autres textes de Maïmonide, pense que cela ne devient authentique que si cela va jusqu'à la science exacte de comment est vraiment le monde. Et pas simplement une représentation empirique qui suffirait à nourrir cette connaissance religieuse. Et encore, là, il faut de nouveau rappeler que Maïmonide est très aristocrate. Je veux dire qu'il ne parle que d'une identité humaine la plus authentique possible, qui n'aurait pas d'obstacle que vraiment un homme normal, selon lui, voyant le monde, sait qu'il y a un créateur qu'il faut aimer et craindre. Et nous savons que dans l'expérience de tout un chacun, ce n'est pas le cas. Il y a mille obstacles qui viennent empêcher et qui viennent au contraire mener et qui, si vous voulez, mènent à d'autres pistes, à d'autres doctrines. Et j'ai toujours été frappé, je le répète, et chaque fois que je parle avec des Maïmonidiens, ils disent qu'ils ressentent quelque chose d'analogue, que Maïmonide a parlé pour une élite. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut entendre ce qui va de soi pour lui. Parce qu'il est clair que pour nous, pour notre expérience de tous les jours, ça ne semble pas tellement aller de soi. Vous allez dire à un homme, regarde le monde, mi bara ele. Et tu verras bien qu'il y a un créateur et qu'il faut l'aimer et le craindre. On vous regardera comme un mystique. Peut-être que Maïmonide était mystique comme ça, mais je pense qu'il était surtout un aristocrate de la condition humaine. Il n'a parlé que pour les hommes authentiques. Ou je veux dire, plus exactement, il n'a parlé que des hommes authentiques. Il y a là une difficulté, parce que peut-il y avoir une communauté juive maïmonidienne s'il s'agit d'une élite ? Je sais bien que, c'est encore une blague et vous la connaissez, que tous les juifs sont destinés à être élites, chez Nehemar, israélite. Mais enfin quand même. Alors, je reprends donc la lecture. Vehéach, hi aderech le'avato ve'irato, b'sha'a she'itbonen, ha'adam, b'ma'asav, u'bruav ha'niflaim. Niflaim, donc ces actes de Dieu et ces créatures, niflaim, extraordinaires, merveilleux, nifla. Le monde est tel, jusque dans ses mécanismes les plus fins, qu'il est impossible que ça ne renvoie pas à travers une expérience de mystère, nifla, qu'il y a quelque chose de caché, et qui est que ce monde a un créateur, et que ce créateur, et c'est l'expérience que nous avons à travers la création, est à aimer et à craindre. Donc vous voyez que Maïmonide est absolument orthodoxe dans ce problème, mais il y a ce petit décalage avec le sifré que nous venons de lire et que nous retrouverons demain dans la controverse des commentateurs de Rashi. Alors je continue. Bema'asav, ubruav, aniflaim, agdolim, grand, ces créatures extraordinaires, grandes, ve'iremen, et qu'il voit d'elles Chochmato, sa sagesse à lui, le Créateur. Chez la erreur, qui n'a aucune mesure. Veloket, aucune limite. Miad, immédiatement, hu ohev, il aime, ou me chavear, et il loue, le verbe louanger, ou me faer, il glorifie, ou mitave ta'ava gdola, et il est pris d'un grand désir, l'eda Hashem Hagadol. De connaître le nom grand. Vous voyez, pas de connaître Dieu, mais son nom. C'est-à-dire, comme j'ai indiqué tout à l'heure, la relation de Dieu au monde. Où son nom se trouve-t-il dans le dévoilement de sa volonté? C'est-à-dire dans l'étude de la Torah. Vous voyez qu'au fond, il n'y a pas de contradiction. Mais malgré tout, c'est une voie de la connaissance de Dieu que Maïmonide formule ici en passant à travers l'étude du monde. Alors que le sifré court-circuite cela et nous dit directement Umahu Ahava, et quel est cet amour? Advarim Aele, c'est les paroles dont je te parle, que je prescris aujourd'hui, c'est évidemment la Torah. Un chidouche très élaboré serait que Advarim Aele, c'est les choses du monde. Mi Baraele. Mais c'est très élaboré. Alors, on continue un peu, après on relit la traduction en français, il faut un peu de détente quand même. Kemo chez Amar David, comme David a dit, Tzama nafshi l'elokim l'el chai. Mon âme est assoiffée de Dieu, du Dieu vivant. Vous voyez, émotion, et non pas amour intellectuel. On ne contemple pas intellectuellement la vie. J'allais dire on communie, mais enfin on vit. Ukshe mechashev bidbarim haelu. Atzman. Et lorsqu'il réfléchit, pense à ces paroles, elle-même, miad, tout de suite, immédiatement, runichtar le'achora, c'est une expression hébraïque qui signifie il est pris de saisie de tremblement, il est renvoyé en arrière. Il y a un midrash qui dit que c'est ce qui est arrivé aux Hébreux au pied du Sinaï. Ils ont été renvoyés de 2 kilomètres en arrière d'un coup. C'est pas parce qu'il y avait de l'électricité. Ifhad, et il sera pris de crainte, c'est plus que la crainte, pahad, c'est le tremblement. Veyodéar, et il saura, il sait, Shehu Briaktana, qui n'est, c'est moi qui ajoute, qu'une petite créature. Shfela, très humble. Afela, obscur. Omedet Bedaat Kala, qui ne se tient qu'à un niveau infime de connaissance, mais outa, un rien de connaissance, peu, l'ifne temim deot, devant celui, une expression de la Bible, qui est Temim Deot, de connaissance intégrale. Temim Deot. Par rapport à ce que serait une connaissance authentique, de se rendre compte qu'il n'est capable que d'une connaissance très diminuée. Bon. Que Moshe Amar David, comme David a dit, qui est Rechamecha, car lorsque je vois tes cieux, Maase Etzberotecha, l'œuvre de tes doigts, Maenosh Kiteskerim, que peut être l'homme, que tu le mentionnes, en t'adressant à lui pour lui dire connais-moi. Tu vois cette distance infinie de niveau de connaissance. Ufia Devarim Aelu. Et d'après ces paroles, Anim Evaer Klalim Gdolim, Mimaase Ribona Olamim, je vais entreprendre d'expliquer de grands principes de l'œuvre du Maître des Mondes, Kede Sheyu Petar Lamevin, afin qu'il soit comme une porte pour celui qui peut comprendre, les Ehov et Hashem, en vue d'aimer Hashem. En hébreu, dans la langue juive, pour dire Dieu, nous disons Hashem, mais strictement pris, Hashem, ça veut dire le nom qui dévoile qui il est, mais qui le cache en le dévoilant. Kemo she'amru chachamim be'inyan ahava, ainsi que nos maîtres ont enseigné au sujet de l'amour, she'mitor kach atamakir, c'est du dedans de cela, et là il cite le sifret, mitor kach atamakir, du dedans de cela, tu connais, reconnais, et mi she'amar ve'aya olam, qui a parlé et le monde a été, par sa parole, donc dans sa parole. Alors, si vous voulez, quand même, on va lire en français. Hein. Vous voyez, vous allez voir le décalage culturel. Et quelle est donc la voie qui conduit à l'amour et à la crainte de Dieu? Lorsque l'homme considère les œuvres et les créatures de Dieu, merveilleuses et grandes, lorsqu'il y aperçoit la sagesse divine, incomparable et infinie, il se sent aussitôt envahi d'un sentiment d'amour, il loue et il célèbre. Animé d'une passion extrême, il brûle de connaître ce Dieu sublime et il s'écrie avec David, « Mon âme a soif d'Élohim, du Dieu vivant. » Bon, mais lorsqu'il médite sur le fond de ses merveilles, il est sur le champ comme tiré en arrière, il a peur, il tremble, il se rend compte qu'il est une créature petite, basse, obscure, confrontée dans son chétif savoir à celui dont parfaite est la science. C'est ce qu'exprime David lorsqu'il dit, « Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes ?» Fort de ces constatations, je résumerai à grands traits l'œuvre du maître des univers pour ménager à l'homme qui saura m'entendre une porte s'ouvrant sur l'amour de Dieu. Les sages ont dit en effet au sujet de l'amour, c'est de la sorte que l'on se familiarise avec celui dont la parole a créé l'univers. Bon, vous voyez que le sens y est, mais je comprends très bien que la forme puisse faire obstacle. Comme quoi, c'est interdit de mettre par écrit ce qui doit rester oral. Bon, il faut bien faire des livres. Alors, on aborde tout de suite la deuxième citation. Alors, ceci se trouve maintenant dans le Sefer HaMitzvot. C'est la formulation de la troisième mitzvah des 613 commandements dans l'ordre du Sefer HaMitzvot de Maïmon. La mitzvah shlishit, la troisième mitzvah, hi atzivuy, c'est le commandement shenistavinu, duquel nous avons été ordonnés, que nous avons reçu, à la Havato et Ale, concernant l'amour de Dieu, qu'il soit exalté. Vehu, et il s'agit, Shenit Bonen Venistakel Bemitzvota Vetsivuya, que nous approfondissions, que nous étudions, que nous comprenions, que nous devenions intelligents dans cette étude de ses commandements et de ses œuvres. Vous voyez les deux termes cette fois. Mitzvotav, ces commandements, où on va les apprendre? Dans la Torah. Peulotav, où on va les connaître? Alors, deux possibilités. Soit dans l'étude du monde, soit dans le récit que la Torah fait de l'œuvre de Dieu dans le monde. Je préférerais la deuxième lecture, mais les deux sont possibles. Vous suivez? Top. Kede shenasigehu, afin que nous atteignions sa connaissance, la connaissance de lui, venit aneg beasagato, que nous ayons